Merci Stardi. Stardi, alors tu viens de parler justement du graffiti, et donc on sait que le graffiti a eu un rôle donc très important, et donc il s'implante, tu viens de le dire, dans ces années. Warner, toi, je sais que tu as commencé et tu es entré dans la culture hip-hop par le graffiti. Est-ce que tu peux revenir sur la manière dont les choses se sont passées pour toi? Et tu as évoqué le groupe AEM tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus?
Je pense que chacun a une histoire propre. En fait, en fonction de où tu as vécu, qui tu as fréquenté, tu as eu en fait une histoire personnelle. Moi, pour ma part, le graffiti est venu dès le collège, parce que j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de rencontrer des membres du Black Power à l'époque. C'était des jeunes qui vivaient en France, qui faisaient des fois des petites exactions, et leur famille les envoyait en Guadeloupe pour un petit peu les calmer. Donc il y en avait un ou deux qui étaient au collège Jurisé, pour ceux qui connaissent l'époque. Et donc j'ai eu la chance de les côtoyer. Et ils m'ont un petit peu amené d'abord sur le tag, le graph, l'esprit un petit peu de confrérie, de bande aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais ils m'ont amené des images, des photos, puisque nous on n'avait pas il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de magazine. Ils ont amené des cassettes de Radio Nova. Donc c'était une émission sur Paname, sur Paris, qui faisait venir tous les rappeurs un petit peu en freestyle aussi. Et on pouvait écouter ces cassettes avec 2-3 ans de retard hein, quand même. Hein. Mais on pouvait les écouter. Donc le graffiti, c'est un mix de tout ça. J'ai commencé dans la rue comme tous les copains. Hein, comme tous les copains, c'est vrai que Pointe-à-Pitre a subi nos attaques. Régulièrement, on était effacés, mais on repassait. Il y avait une petite concurrence entre les crews, entre les différents groupes, mais c'était une concurrence, on va dire, un peu saine. C'est-à-dire que même si on essayait de représenter un maximum chacun de son côté, on se réunissait et on faisait des jams. C'est-à-dire qu'on se faisait des jams et c'était le moyen à cet instant de se clasher, mais tout en douceur, on va dire. Ouais, se tester. Et c'était super intéressant parce que ça nous permettait de progresser. Parce qu'on n'avait pas forcément, je reviens sur ça, les informations qui venaient de l'extérieur à profusion. Donc on était obligé d'un petit peu travailler entre nous pour essayer de progresser. On n'avait pas du matériel de très bonne qualité non plus, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Ce n'est pas les bombes que maintenant les collègues utilisent pour faire des fresques dans tout Pointe-à-Pitre et toucher de l'argent. C'est juste du matériel qui était tendu. Voilà. Donc, tu voulais me poser une question, je t'ai coupé.
Oui, alors j'allais justement rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'en France ou aux États-Unis, le graffiti est beaucoup associé au métro et au train, au dépôt. Quelles étaient la cible, en fait, des graffeurs en Guadeloupe?
Nous, on mettait une cible sur Pointe-à-Pitre. Hein. À l'époque, si tu réussissais à noyer Pointe-à-Pitre de tags, de graphes, toute la Guadeloupe était au courant que tu étais là. Donc c'était Pointe-à-Pitre notre cible. On n'est pas forcément une cible style la préfecture ou ci ou ça. C'était pas spécialement politisé. C'était plus dans une concurrence et dans un, on va dire, un échange entre collectifs. Voilà. Mais néanmoins, cette force d'être seul sur le territoire nous a permis après d'avoir plus la rage. Donc quand on est parti à l'étranger, je vais nommer quelques graffeurs qui sont toujours actifs, par exemple, des gars comme... on a commencé d'abord avec Groover. Groover, il est toujours actif. Bon, il est en Israël, mais il est toujours artiste peintre en Israël.
Peut-être préciser que Groover est un franco-israélien qui commence à graffer à Paris dans les années 80 et qu'il arrive dans les années 87-8 en Guadeloupe et il va vivre pendant 10 ans en Guadeloupe.
C'est ça. C'est-à-dire que quand il est arrivé, il avait déjà une certaine connaissance du graffiti. Il avait quelques contacts pour lui permettre d'avoir des murs intéressants.
Coca-Cola.
Coca-Cola, notamment. C'était vraiment une zone avec son crew UBC, Unité Bombeur de Choc. Fony, je crois que Fony a participé, sans te dénoncer, mais je crois que tu étais...
Il est sur le mur Coca-Cola de l'époque.
Voilà.
C'est comme ça que j'ai vu son blaze en premier.
Exactement. Donc, il y avait plusieurs crews hein, déjà à l'époque, les 215 MC, etc. Il y avait des taggeurs avant, qui venaient aussi souvent de France et qui un petit peu surfaient entre le tag et le graph. Mais le vrai graffeur qui est sorti du lot, qui a permis d'avoir une résonance internationale avec son projet de peinture, tout le stade de Bemao, c'est Groover. D'accord ? Mais il y a d'autres graffeurs hein, qui ont connu un aura aussi particulier, comme par exemple Prose. Prose, qu'on parle, on n'en parle pas spécialement en Guadeloupe, pourtant c'est un artiste international. Il vit à Las Vegas. Donc il a été dans toutes les jams dans le monde entier. Donc il a quand même représenté la Guadeloupe à cet effet.